Vous écoutez
RMC. RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous omnisport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end avec notre membre de la Dream Team, Stephen Brun, est là ce soir. Salut Stephen.
Salut Thibaut, bonsoir tout le monde.
T'as passé un bon week-end?
J'ai passé 4 jours, je rentre de Belgrade, j'étais au Final Four de l'Euroleague, donc j'ai passé 4 jours magnifiques, du beau basket, et puis Belgrade, je conseille à tout le monde.
C'est très bien fait d'en parler là à 19h parce qu'on n'en parlera pas. Donc au moins c'est fait.
Voilà, c'est fait.
Au programme ce soir, Roland Garros, y aura-t-il cette année un successeur à Yannick Noah? Voici la question qu'on ne posera pas. Non, ça fait quelques années qu'on a arrêté de la poser. Une demi-heure spéciale dans un instant avec la Dream Team Tennis en direct de la Porte d'Auteuil. On se demandera plutôt si la pépite Alcaraz est le favori numéro 1. Il fait son entrée en lice ce soir. Dans une demi-heure, la F1 doublée Red Bull à Barcelone. Verstappen reprend la tête du championnat du monde. L'effet Ferrari est-il terminé? On pose la question à Jean-Luc Roy. Et puis à 19h45, l'invité du RMC Sport Show, invité rugby, Philippe Saint-André, le coach de Montpellier, premier qualifié avec l'UBB pour les phases finales du Top 14. Pourquoi faire? Quelle ambition maintenant? On sera avec Philippe Saint-André à 19h45.
RMC Sport Show.
On fera un point sur la Serie A, c'est toujours la mi-temps, l'AC Milan qui mène 3-0 contre Sassuolo et virtuellement championne d'Italie. On est ensemble jusqu'à 20h, on vous lit sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC, RMC Sport, le direct studio. Les jours rallongent, les températures augmentent, les épreuves du bac se rapprochent, pas de doute, c'est l'heure de Roland Garros.
Roland Garros 2022, ça commence aujourd'hui.
Une énorme sensation à l'instant même, justement, Thibaut. C'est l'élimination d'un des épouvantails du tableau féminin. Onze Jabeur, la Tunisienne, membre du top 10 mondial, qui vient de passer à la trappe face à l'Iné.
Deuxième balle, retour, bon retour de Taro Daniel, qui va peut-être monter un petit sachet d'amorti. Allez, Grégoire, faut y aller. Ça va le faire. C'est fait. Formidable victoire pour le Français. Il est au deuxième tour, victoire en 5-7.
Le nouveau phénomène du circuit du tennis mondial, c'est évidemment Carlos Alcaraz qui aura les honneurs du cours central aujourd'hui, puisqu'il va conclure la journée sur le châtrier face à Juan Ignacio Londero.
La une du RMC Sport Show.
Roland Garros à vivre sur RMC pendant 15 jours avec en direct de la Porte d'Auteuil la voix du tennis, Eric Salio. Salut Eric.
Salut Thibaut, salut à tous.
Salut Eric.
Et on accueille une membre de la Dream Team, 166e joueuse mondiale, mais surtout en pause, future maman. On est ravis d'accueillir Amandine Hess. Salut Amandine.
Salut.
Bienvenue chez toi. Bienvenue sur
Merci
RMC
beaucoup.
Amandine. On parlait des températures qui augmentent. Bon, Eric, c'était pas l'été non plus aujourd'hui à Paris en fait. Quand même.
Non, moi c'était des conditions de jeu quasi parfaites. Moi j'aurais adoré jouer, moi qui supporte pas la chaleur, Stephen le sait, j'aurais adoré jouer dans ces conditions de jeu, mais là il se passe toujours quelque chose à Roland, Amandine, au moment où on se parle, la partie est interrompue sur le central puisqu'il y a un spectateur qui est sur le point de se faire expulser des tribunes.
Ah bon?
Ouais, oui. Il faisait visiblement un peu trop de bruit. Il y a deux gardes du corps qui sont installés à côté de lui. Il a pas intérêt à moufter parce que sinon il prend la porte.
C'est
énorme, j'avais jamais vu ça.
Donc ouais. Si ça peut déstabiliser un petit peu Sakari, ça serait bien.
Donc il y a un mec dans le public qui faisait trop de bruit et
ils ont mis deux Golgoth à côté.
Oui, oui, c'est fantastique.
C'est exceptionnel.
Que là, il ne va pas l'ouvrir. Hein.
Et en fait, on imagine qu'ils vont attendre la fin du jeu impair pour le dégager au changement de côté, non? C'est ça?
Oui, il y a 6-2, 5-3 pour Maria Sakari face à Clara Burel. Donc au prochain changement, on va surveiller ça de près, c'est assez rigolo.
On espère
c'est du rarement
déjà.
Vu quand même, Amandine Roland. Hein.
Ouais,
c'est
vrai.
Plutôt sympa.
Les gens se tiennent plutôt bien.
Oui, parce que les spectateurs n'ont pas le droit d'amener leur verre de bière. En tribune comme à Melbourne par exemple. Ouais. Donc là c'est une scène assez rigolote.
Ouais. D'ailleurs, puisqu'on parle du public, on est content de retrouver les allées de Roland-Garros pleines. Ça faisait un moment, Eric, là.
Ouais, non, ça change tout. Surtout que on a un nouveau stade et c'est là qu'on voit le pouvoir d'attractivité de ce nouveau stade Roland-Garros avec donc qui est beaucoup plus étendu qu'avant. Il y a franchement, la zone des qualifs, Amandine, elle est super réussie. Quoi. Le court 14, je crois, devient déjà le court préféré des Français.
Incroyable. J'ai même pas pu aller voir le match de Grégoire Barrère tellement c'était rempli.
Ah, oui. Ouais, que 2200 personnes, c'est presque trop petit, je trouve.
C'est ça.
Mais c'est une magnifique cuvette.
Et oui, c'est là-bas que Grégoire Barrère s'est qualifié le Français pour le deuxième tour. Et on vous fera découvrir un reportage tout à l'heure, justement, sur cette ambiance exceptionnelle. Bah tiens, Eric, faisons un point là, 19h05, sur RMC, sur les matchs en cours.
Oui, donc avec Clara Burel, la Française qui est en difficulté puisque Maria Sakkari est à 2 points de la victoire, 6-2, 5-3. Bon, Maria Sakkari, c'est l'une des outsiders de cette édition, demi-finaliste l'an passé. Donc effectivement, on n'attendait pas d'exploit de la part de Clara Burel. Et puis sur le court, Suzanne Lenglen, Alexander Zverev mène 2-0 face à l'Autrichien Höfner. Ça veut dire que Kristina Manovic et dans les starting blocks puisqu'elle va entrer sur ce court Suzanne Lenglen juste après. Coco Gauff sur le court Simone Mathieu et vient de débuter sa rencontre face à une qualifiée la Canadienne Rebecca Marino. On est à 2 partout. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Il y a un peu moins, le programme est un peu léger aujourd'hui, mais on s'est quand même régalé. On a assisté à des petites surprises.
Ouais. Bah on peut en parler là, les principaux résultats du jour et quelques Français qualifiés déjà.
Alors on va commencer et puis Amandine va les commenter. Les deux éliminations de taille dans le tableau féminin, c'est Ons Jabeur, donc la Tunisienne, qui venait quand même de gagner Madrid finale à Rome, qui a été surprise par la Polonaise Magdalinette. Et puis une autre sensation, c'est la sortie de route de Garbiñe Muguruza, qui ne fait plus rien de bon en 2022, c'est incroyable, qui elle aussi a pris la porte face à une coupeuse de tête, Kaya Kanepi.
Qui est une joueuse très dangereuse.
Ah oui, mais quand même.
C'est une surprise sans être une surprise.
On ne s'y attendait pas à ces deux sorties de route.
On ne s'y attendait pas, mais Kanepi a prouvé plus d'une fois qu'elle était capable de battre d'excellentes joueuses, surtout en grand chelem. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment une surprise, même si Garbiñe restera toujours une des favorites sur terre battue à Roland-Garros, mais voilà, de la part de Kanepi, le match qu'elle a procuré aujourd'hui, c'est pas du tout étonnant. Surtout pour avoir joué contre elle, je sais de quoi elle est capable.
Ça cogne fort, hein.
Ça cogne fort.
Ouais. Alors côté français, il y a 2 défaites chez les filles, Harmonie Tan et Carole Monet. Peut-être 3 si Clara Burel n'arrive pas à renverser la situation sur le central. Et chez les garçons, victoire de Grégoire Barrère, 5-7. Et malheureusement, Quentin Alice s'est heurté au géant. Voilà, c'est fini pour Clara Burel au moment où on se parle. Défaite donc en 2 manches. Et puis donc, John Isner a battu Quentin Alice. Beaucoup de regrets pour le français puisqu'il a perdu 3-7-1, ou plutôt 3 tie-break-1. Et ça fout les boules.
Ouais. Ça se joue à 3 petits points.
Et il a remporté le seul set qui ne s'est pas terminé au tie-break. Il a perdu les 3-7-6. Un mot, Steve, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler d'Alcaraz qu'on attend ce soir déjà sur retrouver un Roland Garros comme ça avec public. On a l'impression de revenir 3 ans en arrière. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas vécu ça.
Ça fait 3 ans qu'on n'a pas vu ça. On a vu une édition triste tout nette l'année dernière. Écoute, ça fait plaisir. On va voir ces allées et ces allées plus larges maintenant avec les travaux remplis de monde. On va retrouver ces belles ambiances. Déjà, le cours 14 était fantastique, une Marseillaise pour Grégoire Barrère, ça met le feu et ça aide les Français parce que Barrère, clairement, il le dit en conf, il dit moi, s'il n'y a pas le cours 14 autour de moi, je ne suis pas sûr que je vais gratter cette victoire. Donc on va retrouver des matchs épiques, des Français qui vont créer des surprises, j'espère, parce que si on ne les crée pas devant notre public, je ne sais pas où on va les créer, Thibaut.
Alors l'événement aujourd'hui, on parlera des Français un peu plus tard, mais l'événement, c'est l'entrée en lice ce soir de Carlos Alcaraz, l'Espagnol de tout juste 19 ans, nouvelle pépite du tennis mondial. Est-il le favori numéro 1 de ce Roland Garros? Hashtag RMC Live, Direct Studio pour commenter sur les applis RMC et RMC Sport. Eric, il débute contre un Argentin sur le Châtrier dans pas longtemps, du coup.
Oui, absolument, alors que la personne dont on parlait, il est expulsé.
Ah, ça y est.
Ah, c'est assez violent. Hein.
Ah.
Ah oui, ça y est, il a pris... Ouh là là, garde du corps, ça rigole pas.
Expulsé comme Jeffrey dans Le Prince de Bel-Air, tu sais, quand il le jette comme ça, là, par le
oui, fil. Ça rigole pas. Oui, écoutez, on va le vivre en direct, puisque Carlos Alcaraz, une fois qu'ils auront fait l'interview sur le cours, une fois qu'ils auront nettoyé le cours, il va faire son apparition, Amandine, sur le central. Et ça va être un moment magique, peut-être, parce que j'ai l'impression qu'il y a une attente énorme autour de cette pépite espagnole. Hein.
Ouais, c'est ça. On a hâte de le voir jouer. On a hâte de le voir jouer sur le central aussi, parce qu'on sait que c'est des conditions quand même assez spéciales sur ce terrain où il y a énormément de recul. Donc oui, on va voir. C'est un bon premier match pour lui aujourd'hui pour se mettre en jambes et puis on verra s'il fait partie des favoris.
Ouais,
on va voir ce qu'il a. Ouais.
On verra. Ouais, en tout cas,
ce qu'il a dans le ventre.
Ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, c'est lui qui fait la meilleure saison sur terre. Stephen.
Oui, il a dû gagner plus de 20 matchs déjà, 3 petites défaites, il me semble. Maintenant, très sincèrement, Thibaut, moi, je ne serais pas surpris de voir une déception Alcaraz à Roland-Garros.
Ah oui,
ouais, parce que déjà, la partie de tableau est compliquée. Et il est avec Nadal, il est avec Djoko. parce qu'on est sur un format de 5-7 et qu'on n'a pas vraiment de recul sur ses capacités pardon, à jouer ce genre de match. La dernière, c'était à l'Open d'Australie. Il avait perdu en 5-7 contre Berrettini. En 2021, à l'US Open, il abandonne parce qu'il vient jouer deux matchs en 5-7. Il abandonne contre en quart de finale à l'US Open en 2021. Donc certes, physiquement, il a énormément progressé. Et puis, il y a un nouveau concept, c'est qu'aujourd'hui, Carlos Alcaraz arrive en Grand Chelem avec le statut de favori. Comment on gère ça? Même si on l'a vu hermétique à la pression, assumer plein de choses ces six derniers mois, là on parle d'un grand chelem sur terre battue. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui me font me dire que je suis pas sûr que Carlos Alcaraz. Alors je te dis pas qu'il va perdre le premier tour, mais je suis pas sûr qu'il faut en attendre de monts et merveilles et encore moins un vainqueur du grand chelem.
Amandine, qu'est-ce que tu attends sur ce Roland Garros d'Alcaraz? Est-ce que pour toi c'est le favori numéro un ou est-ce que t'as aussi beaucoup de réserves comme Stephen?
Déjà, je pense que lui, il a pas la prétention de se dire qu'il est favori pour Roland Garros. Je pense qu'il y a quand même Nadal et Djokovic qui sont de grands favoris aussi. Après, je pense qu'il a prouvé plus d'une fois que la pression, il savait la gérer. Je me fais pas de soucis pour lui, mais après, oui, c'est sûr que le tableau qu'il a, ça va être très très compliqué. Mais voilà, en jouant match par match, on verra de quoi il est capable. Mais je pense qu'il nous a prouvé de très belles choses jusqu'à présent. Après, même, je pense que ça reste Djokovic le favori pour ce tournoi.
Mais pour rebondir sur ce que dit Stephen, qui est assez pertinent, je trouve. Alcaraz, il a gagné deux tournois à la maison, mine de rien. Barcelone et Madrid. Donc, il était dans des conditions très favorables.
C'est pas un joueur on the road.
Donc là, c'est vrai qu'il y a quand même un gros point d'interrogation sur sa faculté à tenir la pression. On l'a vu avec Ons Jabeur tout à l'heure, ça l'a pas fait. Mais il a quand même de sacrées certitudes. Et puis, il a été intelligent dans sa programmation. Il a pas fait Rome. C'est-à-dire qu'il il a évité d'arriver à Paris sur une défaite.
Ouais.
Donc ça peut jouer.
Et puis là, il y a les 5-7 aussi qui vont rentrer en jeu. On va voir comment ils s'en sortent, sauf s'ils gagnent en 3-7 tous ces matchs.
Il est bien bâti, Amandine. Hein. Ouais. Je pense qu'il est bâti pour durer 15 jours. Hein.
Mais
bon, en tout cas, son adversaire du jour, là, l'Argentin, a priori...
Méfie-toi des Argentins, c'est un battu.
On l'a connu. Il a été bon en Roland une année. Là, il est le loser en plus. Il a été battu au qualif dernier tour, mais il a eu la chance d'être repêché. C'est un bon guerrier. Je pense que c'est l'adversaire idéal. C'est pas un mec qui veut lui faire très mal. Je pense qu'il va l'exploser comme un popcorn.
Tu l'as battu il y a quelques années, toi, d'ailleurs.
Non, confonds avec Stephen Brun. Il est battu sur un set.
Ouais, mais c'était pas au tennis. C'était ça le truc. Est 19h12. Vous êtes sur RMC, le RMC Sport Show. Jusqu'à 20h avec Stephen Brun. On est en direct de la Porte d'Auteuil avec Eric Salio, avec Amandine Hess, membre de la Dream Team. Alors, on s'intéresse à Alcaraz qui va jouer dans quelques minutes, qui va faire son entrée en lice pour son deuxième Roland Garros, hein, parce qu'il avait déjà joué l'année dernière, battu au troisième tour. Peut-être le futur prince de Roland, mais des nouvelles du roi, s'il vous plaît, Monsieur Salio, le roi Nadal. Où en est-il? Pour le coup, lui, sa préparation a été compliquée entre blessures et défaites. Il arrive comment? Est-ce qu'on sait déjà comment arrive Nadal Porte d'Auteuil aujourd'hui?
Non, on ne sait pas parce que il a eu des séances d'entraînement un peu bizarres. Moi, j'ai assisté à une séance d'entraînement sur le 5 où. Exceptionnellement, il n'y avait aucun journaliste accrédité, aucun photographe qui avait pu accéder au cours. Et
comment t'as fait pour y être, toi?
Alors moi, j'étais dans les escaliers de la tribune du Châtrier et j'ai quand même été pris par la patrouille. Sérieusement, oui, il y a des gardes du coffre, enfin, des gens de la sécurité qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Monsieur, vous n'avez rien à faire ici ». J'ai dit « Attendez, je suis dans les escaliers du Châtrier ». J'ai dit « Vous avez reçu des consignes ou quoi ?» Silence, je dis, il y a un truc, il y a un loup, dites-moi. Ils ont pris en photo mon accrédite.
Mais non.
Bon, depuis, j'ai plus de nouvelles, celui-là.
Ouais, mais quand ils ont vu Eric Salio sur l'accréditation, ça n'a pas fait tilt pour rester sur place?
Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et la séance d'entraînement de Rafa était franchement pas bonne.
D'accord.
Mais il l'a dit, hein, sa blessure, elle va, elle vient.
Et on parle après, de celle au pied, pas celle aux côtes. Hein,
le côte, voilà. C'est réglé.
Oui. C'est réglé.
Non, c'est ce fameux pied gauche, ce syndrome. Écoute, on sera fixé demain. Il est au programme demain sur le Châtrier, donc là, il ne pourra plus se cacher, Amandine. Hein, ouais. Va falloir y aller, quitte à serrer les dents, parce que la douleur, elle ne va pas le lâcher, il l'a dit.
Puis, de toute façon, on sait qu'à partir du moment où il va rentrer sur le court, c'est qu'il se sent capable de jouer et qu'il se sent d'être à 100%. Donc, si à un moment donné, il ne se sent pas trop pas trop en forme, on sait qu'il préférera ne pas rentrer sur le terrain.
Stephen, on a toujours dit Nadal, oui, mais attention, quand il arrive à Roland, il est chez lui, on oublie tout, etc. Est-ce que c'est trouve que ça c'est encore vrai cette année parce que avec ce que nous dit Eric, on a l'impression qu'il est vraiment mal en point.
Il part de loin, Rafa. C'est peut-être sa pire préparation
ever.
Pré Roland Garros, 5 matchs joués, pas de tournoi remporté. Avant ça, une coupure parce qu'il est blessé aux côtes. Donc voilà, maintenant, sur les premiers tours, il va se servir de ça. Il va se servir de ses premiers tours pour se préparer, en espérant qu'il tombe pas sur un traquenard et un adversaire capable de tenir. Maintenant, je pense que sur les premiers tours, Jordan Thompson.
Yes.
Sur les premiers tours, je pense qu'il, malgré tout, il a quand même cet avantage psychologique de rentrer à Roland Garros sur terre battue face à des garçons qui ne l'ont jamais battu, comme ce garçon Jordan Thompson. Mais il faudra surveiller ça parce que on sait que Rafa a besoin de repères. Rappelez-vous, au dernier tournoi, là, il finissait un match, il demandait de réserver un court parce qu'il sentait pas bien son coup droit, parce qu'il sentait pas bien son service. Donc il a besoin de repères. Je pense qu'il est très, très loin, malgré tout, de son niveau et très loin pour prétendre à la victoire finale. Maintenant, surtout si son pied le laisse tranquille et qu'il retrouve son jeu. Et puis on parlait du tableau compliqué d'Alcaraz, mais bon, c'est le même aussi pour Rafa parce qu'ils sont dans la même partie. Donc
c'est sûr. Et c'est le même aussi pour Djokovic, puisque
exactement.
Les trois sont dans la même partie. Et pour Zverev également.
Il y a que Tsitsipas.
Ah oui, c'est l'autoroute pour Tsitsipas.
C'est pénard.
Donc Nadal, on sait vers quelle heure on le voit demain, Eric.
Oui, il est en match 3, donc milieu d'après-midi. Puisque la night session sera pour Novak Djokovic. C'est bien, en fait, c'est le tenant du titre. Donc la première night session à pleine jauge. C'est le tenant du titre, Novak Djokovic. Donc à partir de 21h pétante, il y aura un spectacle à partir de 20h30. Ils veulent vraiment installer
un... Qu'est-ce qu'il y aura comme spectacle ? Tu fais un petit teasing, Eric.
Ah non, moi je veux découvrir ça. Moi j'aime pas savoir les choses à l'avance, Stéphane.
Ah, c'est pour ça que
il y aura un DJ, apparemment.
Tu veux pas découvrir les choses à l'avance ?
Un DJ set, c'est comme ça qu'on dit ?
Un DJ set de Bob Sinclair ?
Non, Bob, il était là samedi, Bobby. On va le mettre au repos.
Là, t'as bien les surprises, mais ça t'empêche pas d'aller espionner Nadal quand même.
Non, mais ça, c'est pour l'information, l'info journalistique. Djokovic contre un japonais demain. Nishioka. Donc ça, ce sera demain. Djokovic, justement, dans cette partie de tableau très compliquée, Alcaraz, Nadal, Djokovic. Amandine, tu nous disais tout à l'heure que pour toi, c'est le tenant du titre, le numéro 1 mondial qui reste le favori de cette édition de Roland-Garros.
Pour moi, oui, mais après, mon chouchou restera Rafa.
D'accord.
Donc,
le cœur dit Rafa, mais la tête dit Djoko. Pourquoi Djoko exactement. Plus alors pourquoi la tête dit Djoko, justement?
Tout simplement parce qu'il vient de gagner Rome. Donc, je pense qu'il est en pleine confiance. Il a montré que son niveau de jeu était là. Mentalement, il est prêt. Il a le couteau entre les dents. Donc, voilà, à partir du moment où son niveau de jeu est là, Djoko est très, très dangereux. Et puis, il a gagné l'année dernière. Donc... Je me mouille pas trop en disant que c'est le favori.
Elles sont loin, Eric, les histoires de début d'année, on va pas revenir, mais le feuilleton d'Open d'Australie, jouera pas, finalement, il a pas été autorisé à jouer. On a eu un peu peur, enfin, entre guillemets, pour lui, pour son retour, où ça a été un peu compliqué au début. Tu trouves qu'on a retrouvé le Djoko en mode machine, quoi, là, depuis quelques semaines?
Oui, complètement. Non, c'est vrai que ça s'est fait en deux étapes, j'ai l'impression. Mais il l'a avoué, il l'a confié il y a pas très longtemps, parce que tout Djoko qu'il est, il pensait que son expulsion, je vais employer ce terme d'Australie, ça allait couler comme ça. Mais en fait, non, ça l'a profondément marqué mentalement, et il a fallu qu'il évacue tout ça. Mais une fois qu'il l'a évacué, il y a eu le problème du retour à la compète qui a pas été bon, puisqu'à Monte Carlo, on l'a vu, il est tombé d'entrée. Ensuite, à Belgrade, il perd quand même 6-0 au dernier set en finale face à Rublev. Physiquement, il était pas là. Et le retard a été comblé très vite avec un bon tournoi de Madrid, parce que pour ceux qui ont vu le match, Djokovic, Alcaraz, c'était du top niveau, on est tous d'accord là-dessus. Et à Rome, ensuite, il a eu un parcours assez simple. Sans gros match, avec une finale bouclée en une heure et demie contre un Tsitsipas qui était peut-être un peu fatigué. Donc voilà, il a retrouvé tous ses repères, il a retrouvé toutes ses certitudes. Et puis surtout, mais il faut qu'on en parle de ça. Il lui faut l'égalisation à 21 partout, quoi. C'est vital.
C'est pas nécessaire, ça.
Mais c'est vital, Stephen.
21 grands chelems.
Je suis pas sûr que ce soit vital pour lui. Pour moi, oui. Pour moi, c'est vital.
Mais n'arrive pas, Eric.
Eh oui, ton Roger.
De toute façon, elle a peur, là, tout d'un coup.
Ouais, tout d'un coup, je commence à transpirer, là. non, mais on sent que c'est important pour lui. On sent vraiment que c'est important pour lui. même s'il le dit pas.
Il ne pense qu'à ça, Amandine. Tu peux le dire. Tu peux le dire. Il ne pense qu'à ça.
Bah, c'est un mec qui vit que pour les records maintenant. Parce évidemment. Qu'il sait qu'en termes de popularité, il sera toujours le troisième larron. Donc aujourd'hui, pour être numéro un, c'est les titres. Et puis, tu parlais de ce match face à Alcaraz. Face à Alcaraz, on a retrouvé un petit peu l'œil du tigre de Djoko, oui. sur certaines séquences. Cette rage, ce regard noir qu'il avait pas d'ailleurs à Monte-Carlo ni à Belgrade. Mais je crois que la préparation, elle est montée crescendo. Elle est parfaite bien pour lui terminer sur une victoire de Masters 1000 à Rome avant d'arriver à Roland. C'est parfait. Je pense qu'Amandine a raison de dire que Djoko.
Toi aussi, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est pas le Alcaraz, c'est Djoko. Eric, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, j'ajouterais un petit truc parce que j'ai discuté avec mes confrères de l'équipe qui se trouvaient à Madrid. Il faut savoir qu'à Madrid, ça se joue en altitude. Et ils m'ont dit, ils n'ont jamais vu ça, il était à l'agonie sur les services kickés qui lui arrivaient sur le revers parce que la balle donc, prend de la hauteur. Ils m'ont dit. Il n'a jamais pu trouver ses marques face à Alcaraz. Et c'est ce qui a fait la grande différence dans cette finale. Alcaraz s'en est sorti parce que Djokovic n'arrivait pas à retourner à Roland. Sur ce coup, ce ne sera pas le cas.
Il est 19h20, c'est le RMC Sport Show en direct jusqu'à 20h avec Stephen Brun et avec en direct de Roland-Garros, de la Porte d'Auteuil, Eric Salio, la voix du tennis, et Amandine Hess, notre nouvelle membre de la Dream Team. On s'intéresse à ce tournoi qui débute aujourd'hui. Alcaraz dans quelques minutes, Djokovic, Nadal demain, Tsitsipas mardi. Lui, bon, c'est un peu le numéro 4 quoi dans l'histoire, mais de son côté, il a une autoroute jusqu'à la finale.
Moi je le mettrais favori numéro 2, Tsitsipas, parce que derrière Alcaraz, sur terre battue, c'est peut-être lui qui a les meilleurs résultats. Vainqueur à Monte-Carlo, il fait finale ou à Madrid. À Rome, où il perd contre Djoko. Il est finaliste.
Demi à Madrid,
finale à Rome,
oui, il a beaucoup joué.
Il est finaliste l'année dernière à Roland-Garros, où il mène 2-7-0, et puis il y a le Pipi Gate qui renverse tout. Pour moi, Tsitsipas fait figure de favori numéro 2 derrière Djoko.
Oui, carrément.
Partie tableau cadeau.
Allez, moi, ce matin, dans les paris MC, j'ai pris un risque énorme. J'ai dit que le piège, ce serait de penser que le vainqueur sortira de la partie haute. Donc voilà, j'ai tout dit. Ouais, ils peuvent s'étriper entre eux.
Sans trop te mouiller, quoi, quelque part. Comme
d'habitude. Comme d'habitude, je me dis, Tsitsipas peut ramasser. Vous voyez ce que je veux dire?
Bon, alors, en tout cas, une chose est sûre, on parle des favoris depuis quelques minutes.
On n'a pas parlé français, c'est bizarre.
Et voilà. Je le disais en rigolant tout à l'heure, il n'est pas question, évidemment, d'espérer avoir un vainqueur, surtout en l'absence de Gaël Monfils. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut espérer des Français cette année? Qu'est-ce qui pourrait être un tournoi réussi? Est-ce qu'on est descendu tellement bas chez les hommes comme chez les femmes que aller un huitième de finale, on se dirait qu'on aurait sauvé les meubles? Votre avis là-dessus?
Bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera une surprise à chaque victoire puisqu'il n'y en a aucun qui est tête de série. Donc ils battront, quoi qu'il arrive, des joueurs mieux classés qu'eux. Donc voilà, à partir de ce moment-là, s'il y en a un huitième, ça sera une très belle surprise.
Mais on a loupé le coche, Eric. On aurait pu avoir la garantie d'avoir un Français au troisième tour si Quentin Alice avait battu Johnny Serre.
On pouvait d'ores et déjà effacer la statistique noire de l'an passé. Juste aujourd'hui, ça s'est joué à peu de choses. Puisque si Quentin Alice avait battu Isner, on aurait eu un Français vendredi. C'était génial. Génial.
On l'aura pu. Mais du coup, ce serait quoi un Roland réussi?
Je sais pas.
Qu'il nous fasse vibrer, qu'on vibre un peu, quoi. Voilà.
Un mec qui bat tête de série numéro 12, numéro 14, et puis on est chez nous. Donc les surprises vont arriver. Un Bonzi, un Ryder Knecht.
Tout est possible.
Adrien Manarino qui tourne à 11. On sait, même s'il gagne pas beaucoup de matchs depuis le début de saison.
Est-ce que vous voulez profiter de l'entrée sur le court de Carlos?
Bah, bien sûr. Allez. En direct sur RMC.
Ça va pas tarder normalement. C'est qui arrive là, Amandine? Oui, c'est Londero, ça.
Oui, Londero.
Et bah donc, dans quelques secondes, on va écouter peut-être Marc Maury. Vous me dites si l'ambiance va être bonne. Marc Maury, donc, qui prépare son petit discours. Il est à l'entrée du cours et l'entrée de la pépite espagnole dans quelques secondes. Bon, le stade n'est pas plein. Je pense que les gens sont allés se désaltérer. Écoutez-le.
18 ans seulement, l'espagnol Carlos Alcaraz.
C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal.
Ouais. Il a gagné l'applaudimètre déjà, non?
Ouais, un peu moins que toi quand tu te présentes sur Langdon quand même, Eric.
Voilà, moi, on va pouvoir vivre ses premières balles donc sur le châtrier. Parce que vous avez noté quand même qu'Amélie Mauresmo, ils ont choisi de mettre Alcaraz sur le châtrier, alors que Zverev, qui est mieux classé, lui, il est sur le Langlen.
T'inquiète pas que Zverev, il va le dire en conférence.
Oui, t'as raison.
Le sympathique joueur allemand. 19h24, on parlait des Français. Et justement, Eric, tu disais qu'ils nous fassent vibrer un peu. Ça a été le cas aujourd'hui.
RMC Sport.
Reportage.
Grégoire Barrère, vous en parliez tout à l'heure, s'est qualifié pour le deuxième tour, victoire en 5-7 face au japonais Taro. C'était sur le magnifique court 14. Léna Marjac était sur place pour RMC et vibrait, je crois que c'était le mot, Léna.
Un court bondé, des queues interminables à l'extérieur et des centaines de personnes privées de balles de match. Alain, casquette blanche sur la tête, n'avait jamais entendu parler de Grégoire Barrère avant ce match.
Ah, c'est une découverte. Je savais qu'il y avait un Français qui jouait sur le 14 et j'y suis allé, tout simplement. Et il m'a enchanté. Il s'est bien battu du début jusqu'à la fin. Il a rien lâché. Super spectacle.
Une Marseillaise entonnée, la première du tournoi. 3h14 de match et des supporters ravis qu'un Français gagne.
Super match, super ambiance. Il s'est défoncé, Grégoire. Ouais, il s'est bien battu, mais il joue bien, c'est un bon joueur.
Lui qui gagne, le court plein, tout le monde qui chante et tout le monde derrière lui, c'était cool.
Il était plutôt régulier, il était constant, c'était vraiment un bon match.
Du mal au début à se mettre en route et à la fin porté par le public, vraiment fort.
Mal embarqué après la perte du troisième set, le Français 209e mondial reconnaît l'importance du public.
Qui scande ton nom, qui chante la Marseillaise, t'as un peu de frisson, faut arriver quand même à bien se reconcentrer et jouer, mais forcément ça donne de l'énergie en plus. Le public était vraiment chaud, donc c'était vraiment cool. Et voilà, dans les moments importants, ça t'aide à t'engager plus, à aller chercher les points. Et ils m'ont soutenu tout au long du match et je les remercie pour ça.
Au prochain tour, Barrère pourra venger son pote Quentin Alice, battu par le géant américain John Isner.
Le reportage de Léna Marjac pour RMC. Alors le court 14 là, Eric, un des nouveaux cours, il a tout pour devenir le nouveau cours chouchou des Français des premiers jours.
Ah bah absolument. Vendredi dernier, il y a Geoffroy Blancaneau qui a décroché son billet pour le tableau final en qualif. Il a livré un match comme dans un rêve, parce qu'il était porté par la foule. Alors, il n'y a pas beaucoup de spectateurs, je trouve que c'est 2200, c'est pas énorme,
ouais.
Mais il faut un bruit, je trouve que l'architecture du cours fait que tu te sens comme à la maison, et je pense que beaucoup de Français vont aller voir Amélie pour dire, allez, donne-moi le 14, s'il te plaît, okay. Et si tu veux vraiment que les Français aient loin, ouais.
Tu confirmes.
Ce qui fait la différence, c'est que le public est vraiment très proche du joueur, donc c'est un peu comme l'ancien cours numéro 1.
Absolument.
C'est ça,
absolument.
C'est celui qui va remplacer le numéro 1 dans les cœurs, quoi.
Ben oui, je crois qu'il a un beau destin, ce cours.
Bon, rapidement, Eric, donc le programme de demain est tombé. Est-ce que tu as quelques matchs à nous signaler? Bah, des Français. On a parlé de Nadal et Djokovic, mais on va retrouver quelques Français encore demain.
Oui, alors, tu me prends de court, là, parce que on voulait lancer un petit son de Barrère, non?
Bah, on l'a écouté un peu et on n'a plus trop le temps pour te dire.
Non, parce qu'il y a une belle histoire, Grégoire Barrère, puisqu'il a obtenu la wildcard France grâce à une finale au challenge d'Aix-en-Provence, et il en convient lui-même, c'était un petit hold-up cette wildcard, donc parce qu'il avait connu un début de saison très très compliqué, il avait eu le Covid, il était en Australie, à peine entraîné, il me dit je me sentais comme un loukoum, donc voilà, c'est une belle histoire.
Avant mais le Covid, le pour un demain, mec qui respecte les gestes barrières, c'est moyen quand même.
C'est bon ça. Non mais le programme de demain, je vous l'ai dit, Nadal jouera en 3 sur le court Châtrier, ensuite on aura Djokovic en night session, Benoît Paire a été programmé, et c'est ce qu'il voulait d'ailleurs, sur le court Simone Mathieu, et ce qui veut dire que Joe Wilfried Tsonga, ce sera mardi après-midi.
Magnifique.
Et là, ce sera, à mon avis, le premier grand moment d'émotion de ce Roland.
Ouais. Contre
Casper Ruud.
Gros,
qui vient
gros
de
joueur.
Gagner,
pas cadeau.
Non. Amandine S, Eric Salio, Roland Garros, merci à tous les deux. De toute façon, on continue de vous retrouver. On suit les premiers pas à Roland cette année de Carlos Alcaraz. Merci Amandine, merci Eric, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Votre rendez-vous tennis avec Prime Video, diffuseur officiel de Roland Garros.
On va l'aimer cette petite pub, Stephen. Hein,
voilà, ah, on va régaler.
Ouais, avec une petite musique récente et tout, c'est magnifique. Un point foot dans le RMC Sport Show ce soir. C'est week-end de dénouement dans les championnats. C'était hier en France. C'était il y a un peu moins d'une heure en Angleterre avec City, sacré champion d'Angleterre devant Liverpool grâce à sa victoire. Dénouement en ce moment même en Italie. Aurélien Tiercin, salut.
Salut, et j'ai un petit peu moins de suspense à vous vendre. Le Milan AC à Sassuolo mène 3-0 grâce notamment à un doublé du papy Olivier Giroud et à un très bon Mike Maignan dans les buts, les deux internationaux français. français, deux des internationaux français du Milan AC. L'Inter de son côté devait espérer une défaite du Milan et gagner dans le même temps face à la Sampdoria. Là c'est fait, 3-0 face à la Sampdoria. Il reste 25 minutes à jouer, mais on voit mal Sassuolo inscrire 4 buts au Milan AC dans les 20 dernières minutes. Bref, le Milan AC file à toute vitesse vers son 19e Scudetto, ce qui en ferait l'égal de l'Inter Milan et ce serait le premier depuis 2011.
Merci Aurélien, on continue de suivre ça avec toi. Vos messages sur le hashtag RMC Live, direct studio, message de Tav sur Twitter qui réagit, je crois, à la petite pub qu'on vient de passer. Oui. J'ai cru qu'on était piraté par Beauf FM. Non, t'es bien sur RMC, Tav. On est en direct avec Stephen Brun jusqu'à 20h, hein, le RMC Sport Show dans un instant. Formule 1, on accueille Jean-Luc Roy pour débriefer le Grand Prix d'Espagne remporté par Red Bull. Est-ce que c'est fini pour l'effet Ferrari cette année? On pose la question à Jean-Luc. Et puis, un tout petit peu de foot également. On sera avec Arthur Perrault, journaliste foot, pour avoir les dernières informations autour de Kylian Mbappé, surtout du Paris Saint-Germain. Hier, c'était la prolongation de Mbappé. Aujourd'hui, le PSG commence sa révolution pour l'année prochaine. 19h30, on se retrouve dans un instant.
RMC Sport Show.
Thibaut Viengrande.
Avec Stephen Brun, 19h32. Merci d'écouter RMC ce soir. Vous êtes peut-être en voiture, retour de week-end, retour du boulot demain. Bon courage, on est ensemble. Stephen, on est là jusqu'à 20h nous ce soir.
Avec plaisir.
Votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. On parle rugby dans un petit quart d'heure. Philippe Saint-André, le coach de Montpellier, sera notre invité. Montpellier, l'un des deux clubs qualifiés pour les phases finales du top 14 ce week-end. Pour y faire quoi maintenant? On posera la question à Philippe. Et puis ça a été un week-end particulier avec des hommages pour des grands anciens du 15 de France notamment qui s'arrêtent à la fin de cette saison. On parle Formule 1 également dans un instant. L'effet Ferrari est-il terminé? Mais d'abord, un mot de foot à 7h30. Le feuilleton Mbappé a pris fin hier et aujourd'hui, c'est le futur du PSG qui se dessine.
RMC Sport Show.
La minute foot.
Arthur Perrault nous a rejoint, journaliste foot RMC. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir à tous.
Alors hier, c'était l'annonce, c'est Keda, l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé à Paris pour 3 saisons. Aujourd'hui, c'est le club qui commence sa transformation.
Oui, et ça a commencé très tard, dans la foulée du match hier soir et le succès face au FC Metz, suivi de la célébration du 10e titre de champion de France. On a appris que le directeur sportif Leonardo était démis de ses fonctions. Et information RMC Sport ce midi, le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain s'appelle Luis Campos et comme annoncé, Mauricio Pochettino, lui, devrait partir. La réflexion est toujours en cours concernant le nom de son successeur. Il y avait vraiment une priorité du côté du Paris Saint-Germain sur le poste directeur sportif, donc préparer le départ de Leonardo, préparer l'arrivée de Luis Campos, et une fois seulement Luis Campos en place, le choix du futur coach sera annoncé. Alors évidemment, depuis hier, il y a plusieurs noms qui circulent. On a entendu parler de Christophe Galtier, l'entraîneur de l'OGC Nice. On a entendu parler de Thiago Motta, ancien joueur du Paris Saint-Germain, ancien coach aussi de l'équipe U19 du PSG. Et puis un dernier nom circule et revient avec insistance, c'est celui de Zinedine Zidane. Ce que l'on peut vous dire, c'est que des discussions directes ont eu lieu entre l'émir du Qatar et Zinedine Zidane pour ce poste d'entraîneur. En décembre dernier, l'émir avait déjà tenté de le convaincre, mais finalement Zidane avait indiqué qu'il préférait mettre sa priorité à l'équipe de France. Aujourd'hui, les choses semblent avoir évolué. Zidane écoute, mais pour l'heure, rien n'est fait.
Stephen, le PSG, quand ils décident de changer, ils font pas semblant. Hein.
Ils font pas semblant. Et puis, peut-être que c'est une prise de conscience intéressante déjà, parce que ça fait un paquet de temps qu'on dit qu'il faut changer des choses. Maintenant, encore une fois, même si Mauricio Pochettino n'aura pas fait que des bonnes choses, on lessive les entraîneurs, on laisse pas le temps de s'adapter et de travailler. On s'aperçoit que dans la resignature de Kylian Mbappé aussi, il y a la volonté de prendre conseil auprès de ce joueur, de Kylian Mbappé, ses désirata, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, avec qui travailler. Kylian Mbappé est clairement au cœur du projet. On l'a répété depuis l'officialisation de sa re-signature, mais c'est vrai qu'il va y avoir du mouvement. Et puis, quand on connaît le Paris Saint-Germain, qui aime quand même malgré tout le bling-bling, il devrait y avoir des noms clinquants.
Merci beaucoup Arthur Perrault, bonne soirée, on te retrouve très vite bien sûr, et d'ici là toutes les infos autour du Paris Saint-Germain sur rmcsport.fr. 19h35, place à la Formule 1, le champion retrouve sa place, Max Verstappen a repris la tête du championnat du monde de Formule 1 à Barcelone aujourd'hui.
C'est parti, parce que Charles Leclerc va préserver l'avantage. Un bon départ, mais a priori Verstappen également est très bien parti. Charles Leclerc qui sera mal à l'intérieur et qui devrait parvenir à conserver l'avantage, oui.
Et malheureusement, Charles qui entre dans la voie des stands, qui laisse évidemment la voie libre à George Russell devant Verstappen et Perez.
Perez qui attaque et qui passe au bout de la ligne droite, qui passe en profitant évidemment du DRS. Cette fois, l'attaque a été imparable de la part du Mexicain qui s'empare du commandement de ce Grand Prix. Verstappen qui passe maintenant sous le drapeau à damier. Il va compter près de 13 secondes d'avance sur son équipier Sergio Perez. C'est le carton plein pour Red Bull Honda.
La deuxième période du RMC Sport Show.
C'était en direct sur RMC, comme tous les week-ends de Grand Prix, avec la voix de la Formule 1, Jean-Luc Roy, qui est là ce soir dans le RMC Sport Show. Salut Jean-Luc.
Bonsoir Monsieur Thibault. Bonsoir Jean-Luc. Stephen. Salut à tous.
On l'a entendu à ta voix, Grand Prix spectaculaire. Alors, spectaculaire, mais avec bien plus de problèmes mécaniques finalement que de dépassements. Ça a été
tu es un peu dur, je trouve. Alors, premièrement,
tu vas vouloir défendre ton spectacle,
bien
mais
sûr, non,
le...
je vais dire. Alors, quand même. Bon, alors, même. On prend que la course pour le moment, parce que on va parler après du fond, de Ferrari, j'imagine, de Red Bull, etc. Il y a eu quand même des dépassements, puisque on l'a noté. Il y a quand même eu. Alors, Charles est parti certes au début, mais après la bagarre quand même entre Perez et Russell, elle a été saignante. La bagarre auparavant, juste avant, entre Verstappen et Russell, on a eu une remontée d'Hamilton, on va en parler également. On a eu une belle course également d'Esteban Ocon, faut quand même le préciser. Il y a eu quand même du mouvement. Sincèrement, je crois que on en veut toujours plus. On aimerait ce bras de fer auquel on a assisté à plusieurs reprises entre Charles Leclerc et Verstappen, puisque ce sont les deux principaux protagonistes au championnat. Mais l'avantage, encore une fois, de ce règlement, c'est qu'on a vu ce que j'appelle moi une vraie bagarre, c'est-à-dire il y a un pilote qui en passe un autre et l'autre réplique et repasse devant à plusieurs reprises. On l'a vu non seulement dans le freinage au bout de la ligne droite des stands, mais juste après dans les S. On a vu à au moins deux reprises, j'en ai le souvenir, les pilotes côte à côte qui se maintenaient à 250 km/h quand même dans la grande montée à droite. Non, pour moi, il y a eu du spectacle.
Doublé Red Bull au final, Verstappen devant Perez, puis Russell sur la Mercedes, la Ferrari de Sainz, Hamilton, l'autre Mercedes, 5e, Ocon, 7e, Alonso, 9e. Les Red Bull ont repris le pouvoir, Jean-Luc, déjà au championnat du monde, je le disais, Verstappen est repassé devant, c'est son deuxième succès de suite. Les Red Bull qui repassent devant, après avoir été souvent dominés par les Ferrari depuis le début de saison. Jean-Luc, est-ce que c'est fini Ferrari, l'effet Ferrari, c'est terminé?
Alors, il y a deux lectures. La première, oui, si on prend là, ce résultat est brut et imparable. Le doublé à nouveau de Red Bull, qui fait très très mal au championnat du monde. Tu l'as dit, au championnat constructeur, ça y est, cette fois ils prennent le pouvoir et pas qu'un peu. 195 points à l'issue de ce Grand Prix, en en marquant 44. Alors qu'évidemment, Ferrari se contente des 12 points de la quatrième place de Sainz, donc 169. Ça y est, on passe à son de pouvoir. Mais Charles Leclerc avait signé la pole. Et pas qu'un peu, plus de 3 dixièmes. Carlos Sainz était 3e temps, juste derrière Verstappen. Donc en termes de performance sur un tour, les Ferrari sont là, et bien là, qui avaient apporté du nouveau. Et puis il ne faut quand même pas oublier qu'avec l'incident technique, bien sûr, qui a enlevé Charles était devant avec 15 secondes d'avance. Donc qu'est-ce qui se serait passé? C'était trop tôt pour le dire. 27 tours couverts, il y en avait 66. Il restait une quarantaine de tours. Mais a priori, Charles aurait pu remporter le Grand Prix.
Thibaut est un peu sévère quand il parle de fin.
Oui, sévère, mais juste.
Voilà. Ouais, après Leclerc, c'est quand même la première fois que ça fait Ferrari à une défaillance mécanique de la saison.
Absolument. Alors Verstappen en a eu deux.
Le problème de Verstappen, c'est que s'il n'a pas de problème mécanique, il gagne. Dès qu'il est allé au bout du Grand Prix, ça a été victoire. Donc ça reste un sport mécanique malgré tout. Ferrari est très compétent. Leclerc a montré que quand la voiture est en forme, il a dit pole position. Je te trouve très sévère. Je pense qu'on va aller au bout avec ces deux-là.
Alors, sache que ce n'est pas un avis, c'est une question que je pose à la lecture de
Ferrari. Un petit peu orienté,
pas du tout. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter Charles Leclerc, pilote Ferrari, qui explique au micro de Canal Plus son problème du jour.
Moi, j'ai perdu la puissance du moteur et à partir de là, après j'ai dû m'arrêter parce qu'il y avait un problème. Donc, je ne sais pas encore quel est le problème, mais ça fait mal. Mais en même temps, il y a aussi plein de positifs. On a enfin, je pense, réglé notre problème de dégradation des pneus. Aujourd'hui, c'était vraiment la réponse qu'on cherchait. Et je pense qu'on a montré qu'on était vraiment très rapide. Après, il va falloir regarder ce problème moteur pour pas qu'il revienne pendant l'année.
Leclerc désormais deuxième au championnat du monde des pilotes depuis cet abandon. Alors effectivement, il y a la lecture de ce classement. En termes de performance, quand on regarde l'ensemble du week-end là, à Barcelone, on est comment entre Red Bull et Ferrari alors?
dos à dos ou au même niveau.
Ouais.
On l'a vu, ben oui, parce que l'écart, enfin, sur un tour, quand même, la perf de Charles était remarquable. D'autant qu'à sa première tentative pour décrocher la pole en Q3, il part en tête à queue. Il fait une petite erreur qu'il prend pour lui dans la chicane. Donc, l'arrière embarque. On voit quand même que cette Ferrari, elle est rapide, mais elle est touchy, comme on dit. Parce que Charles s'est fait piéger et Carlos Sainz, en course, s'est fait embarquer lui aussi, hein. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il a décroché. Du coup, il est passé dans le bac à gravier et après, ben, il a fait une course pour essayer de remonter. Bon, il est revenu avec, à mon avis, en bénéficiant des problèmes d'Hamilton sur la fin, parce qu'Hamilton l'avait passé pour la quatrième place. Donc, Hamilton était même remonté 4. Mmh. Et puis, je pense que sur les deux derniers tours, on n'a pas bien vu ce qui se passait, mais il a eu une chute brutale de performance, lui aussi, Hamilton. Peut-être avait-il trop tapé dans les pneus pour remonter, justement. Enfin, bon. En tout cas, la performance est là. La Ferrari est difficile à piloter, en tout cas, plus difficile pour Carlos Sainz qu'elle ne l'est pour Charles Leclerc. Et du côté de Red Bull, ben, on a bien vu, quand on n'a pas de problème, on est là également. Non, c'est dos à dos. Moi, je dis que pour le moment, rien n'est tranché. Hein,
une Ferrari dure à piloter, tu peux confirmer peut-être, Stephen, toi, ouais, qui tous les jours.
Non, pas tous les jours. Parce
mais
que
ta Ferrari personnelle est bien réglée.
Je la sors que le week-end.
Mais c'est un peu plus dur que la Kangoo.
C'est un peu compliqué, c'est vrai qu'elle a tendance à chasser de l'arrière.
Stephen Morin, Jean-Luc Roy, le RMC Sport Show, la Formule 1, le Grand Prix de Barcelone aujourd'hui. À l'instant, tu parles de la Mercedes de Lewis Hamilton, Jean-Luc. Le classement du championnat du monde. Verstappen reprend la tête, 110 points devant Charles Leclerc, 104 points. Sergio Pérez sur l'autre Red Bull est troisième avec 85 points. Et le quatrième, c'est George Russell sur l'autre Mercedes, 74 points.
Et oui.
Russell quatrième, 74 points. Hamilton sixième, 46 points seulement. Près de 28 points de moins que son coéquipier septuple, champion du monde. Sur les premiers Grands Prix, on pouvait
se poser la question, maintenant on peut y répondre.
Ouais, bah, justement, déjà, qu'est-ce qui se passe? Russell est tout simplement plus rapide que Lewis Hamilton, en fait.
Alors, si on rappelle que George Russell, sur lequel Mercedes évidemment avait l'œil depuis longtemps, hein, il était chez Williams, motorisé par Mercedes, mais une monoplace très modeste, surtout les dernières saisons. Ça va un tout petit peu moins mal, on va oser dire, à peine, hein, cette année. Mais en tout cas, on voit bien que l'élément déterminant en Formule 1, quand même, dans le résultat, je dis tout le temps, la proportion, c'est 80%, c'est la voiture, la monoplace et l'équipe. Quand on a mis George Russell pour remplacer Lewis Hamilton lors de l'avant-dernier Grand Prix de la saison 2020, pour cause de Covid, Hamilton était sur le flanc, Russell aurait dû gagner ce Grand Prix pour sa première arrivée, sa première participation au volant de la Mercedes devant Bottas. Seulement voilà, c'était pas admissible. Donc moi j'ose dire, on l'a fait perdre chez Mercedes, on l'a fait deux erreurs monumentales comme par hasard de stratégie et dans les stands. Donc il n'a pas gagné. Il en pleurait le pauvre à l'arrivée. Donc du coup,
en train de dire que Mercedes a saboté la victoire de Russell.
Bah moi je le dis.
Mais voilà. Pourquoi?
Mais parce que c'était trop grave d'avoir un pilote qui était dernier sur la grille de départ précédente, on le met dans la Mercedes, il remportait le Grand Prix.
Mais pourquoi c'est
d'une
trop
part,
grave
ben parce que d'une part ça cassait un petit peu l'image du septuple champion du monde.
Et camouflé par Valtteri Bottas.
Ben oui, tu sais, on a connu le même phénomène avec Michael Schumacher au début des années 2000. Hein, faut quand même le rappeler. Faut pas abîmer l'image de l'icône. Donc dans ce cas-là, eh bien, on fait en sorte, alors que Russell, le talent, la preuve, il l'a. Maintenant, il aligne pratiquement régulièrement, pratiquement, parce que quelquefois c'est encore arrivé qu'il le devance, parce que en qualif, là, on est à 4 à 2. Si je faut que je refasse mes qualifs, 4 pour Russell, 2 pour Hamilton. Donc, et alors, en course, il est cramé, là.
Donc, l'image d'Hamilton, on a voulu la préserver, tu viens de l'expliquer.
Bah, à l'époque.
Mais là, cette année, on est en train de l'écorner, là.
Moi, la question que j'avais posée au début de la saison, maintenant, on a la réponse, c'est est-ce qu'on va laisser Russell jouer sa carte? La réponse est oui. Parce que Hamilton, peut-être, a joué un petit peu avec le feu cet hiver. Il a été choqué, ça, je le comprends très bien, en perdant le titre dans les conditions que l'on connaît, sur lesquelles on ne revient pas. On a obtenu la tête de Michael Massi, le directeur de bourse, hein, parce que on a mis carrément, Hamilton disait, si c'est comme ça, je reviens pas, il faisait sa boudeuse. Bon, il est revenu avec un contrat de 2 ans à 80 millions la saison, moi je reviens.
Alors qu'il y avait une offre du Real Madrid. Hein,
voilà, Hamilton. Bien sûr, c'est ça. Donc finalement, il est revenu.
Il a refusé le Real.
Ça, il n'y avait pas trop de doute. Est-ce qu'il s'est corné un tout petit peu la moitié? Encore une fois, je ne vais pas le jeter aux orties, parce que demain, il peut gagner un Grand Prix, et si je dis aujourd'hui qu'il avance plus, ça va être ridicule.
Mais il va revenir, tu crois, pas, au retour? Parce que
oui,
là, il a l'air au fond du saut, dominé par son
coéquipier. Problème psychologique. Il y a un petit problème. La voiture ne lui convenait pas, et à Russell non plus, mais on force forcé de constater, encore une fois, que Russell en faisait un bien meilleur usage. Or, Russell, bah, c'est un débutant. Enfin, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Il a 24 ans, il sort de 3 années de galère avec Williams. On l'installe dans la Mercedes et lui, il en fait un résultat. Mmh. Tu viens de rappeler, il y a presque 30 points d'écart après 6 Grands Prix. Qui aurait parié là-dessus ? Pas moi. Pas, vraiment pas.
Combien donc, il a l'écrou, Russell ?
Ah ben, Russell, il est, alors lui, je peux te dire qu'il a plus que l'écrou. T'as vu ? Puis il commet pas d'erreur, le gamin. Hein. Ouais, non, pas même, même là, en bataille avec Verstappen, en bataille avec Perez, avec une monoplace qui est inférieure à hein, la Mercedes, il s'est battu comme un chien pour rester devant. Ah. Donc, non, non.
Comme un chien, Russell.
Comme un chien.
Je l'avais, Stephen. Je l'avais. On retrouvera ah, tout ce petit monde la semaine prochaine pour le monde. Dès dimanche, hein, le Grand Prix
oui, Monaco. De Monaco. Alors là, Monaco, là, ça va être grandiose.
Si à Barcelone, on ne pouvait pas doubler, à Monaco, c'est okay. À la queue leu Bézu. Hein.
Attends, attends. Attends. Et est-ce que,
c'est un joli défilé.
Est-ce que la malédiction qui frappe Charles va être levée ?
Il
lui qui est monégasque.
Il ne fait pas une course.
Eh ben non, il a toujours des problèmes, le
pauvre. Il avait qu'à être français. Merci Jean-Luc. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix.
Alors, les essais des vendredis, pas jeudi, hein, parce que ça y est, là aussi, on l'a changé. D'habitude, c'est essai le jeudi, rien le vendredi.
Il va y aller à Monaco. Maintenant. Tu récupères ton appart que tu loues
Non, le yacht, je le loue et je reste ici avec vous.
Merci Jean-Luc, la Formule 1 sur RMC. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. Bye bye, 19h46. Le RMC Sport Show continue. Un tour de nos directs a commencé par le tennis. La première journée à Roland-Garros, ça y est, il est sur le court. Les premiers coups de raquette de Carlos Alcaraz. C'est Anthony Reich qu'on retrouve en direct de Roland. Salut Anthony.
Salut Thibaut, bonsoir à tous. Effectivement, Carlos Alcaraz est sur le court central. Il vient de débuter ce premier tour. Face à un joueur terrien qui peut lui poser quelques problèmes, Juan Ignacio Londero, l'Argentin, et Carlos Alcaraz pour l'instant a bien démarré. 2 jeux partout, 35 sur le service du phénomène espagnol. Et puis sur les autres cours, Alexander Zverev a fait une simple formalité de son premier tour, une victoire en 3 petits sets face à Hautner. L'Autrichien Kristina Mladenovic vient d'entrer sur le Suzanne Lenglen pour défier Leila Fernandez, la finaliste de l'US Open l'année passée. Donc on va évidemment scruter de très près ce que va faire Carlos Alcaraz, et il vient d'empocher ce 5e jeu. 3-2 pour Alcaraz face à Londres.
Merci Anthony, à tout à l'heure. On connaît le champion de France d'Espagne depuis longtemps, on connaît le champion d'Angleterre depuis une heure, un peu moins, Manchester City qui a gagné contre Aston Villa. Dans 10 minutes, on connaîtra le champion d'Italie, Aurélien Tiersin.
Et je peux même avancer un petit peu plus, on connaît le champion d'Italie, c'est le Milan AC. Un nul suffisait pour obtenir le 19e titre de son histoire. Le Milan AC mène 3-0 à Sassuolo après 84 minutes de jeu. 2 buts d'Olivier Giroud, notamment un but de Zlatan aussi, malheureusement pour l'ancien parisien, un but refusé. Le Milan AC se dirige donc vers le titre, puisque en plus le deuxième du classement, l'Inter, mène certes 3-0 face à la Sampdoria à 6 minutes du terme, et on l'a dit, le Milan devait au moins faire un match nul. C'est plié pour le Milan AC de Stefano Pioli pour un 19e titre dans son histoire.
Merci Aurélie, à tout à l'heure. 19h48, le RMC Sport Show en direct jusqu'à 20h avec Stephen Brun, et dans un instant Philippe Saint-André, le patron du MHR qualifié en top 14 pour les phases finales. A tout de suite sur RMC.
RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande.
19h49, merci d'écouter RMC ce soir. Stephen Brun là jusqu'à 20h, le RMC Sport Show, votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Après 20h, ce sera l'after qui arrive comme tous les soirs autour de Nicolas Villas à partir de 20h. Mais d'ici la place au rugby, week-end important en top 14, l'avant-dernier de la saison. On connaît les 2 premiers qualifiés pour les phases finales du top 14.
On a rendu hommage à Fulgence Ouedraogo qui vient de ressortir à l'instant, et ça va être terminé, monsieur Brousset. Et voilà le coup de pied d'Anthony Boutier, la victoire des Montpelliérains 22-13. Les Montpelliérains retrouvent leur place de leader ce soir au top 14, sont donc qualifiés pour les phases finales. Restera maintenant à savoir à quelle place, la première, la deuxième ou des barrages. Tout se jouera sur la dernière journée, mais les Montpelliérains vont pouvoir faire une belle fête aux adieux à Guillaume Guirado, à Fulgence Ouedraogo, à Benoît Payoc, notamment victoire des Montpellierains 22-13.
L'invité du RMC Sport Show.
L'UBB qui a battu le Loup 42-10. Et donc Montpellier, vous l'avez entendu sur RMC, qui a battu le Racing 92 22-13. Et nous sommes avec l'entraîneur, le directeur de rugby de Montpellier, Philippe Saint-André. Salut Philippe.
Salut, bonjour les amis.
Salut mon filou.
Merci de prendre
quelques
minutes.
Comment tu vas, le plus grand basketteur du monde?
Ça va bien,
Philippe. En termes de taille, c'était ça l'idée?
Oui, oui.
Philippe, on attendait un Racing revanchard après l'élimination en Champions Cup la semaine dernière. Finalement, t'as jamais tremblé hier. Montpellier s'impose plutôt tranquillement face au Racing.
Tranquillement, c'est un grand mot, mais je pense qu'on a, on a fait une bonne partie, surtout sur, pendant 60 minutes, où on a bien contrôlé. Après, on a manqué un peu de réalisme dans nos temps forts, mais on reprend la victoire, on se qualifie pour les phases finales. Et puis il y avait beaucoup d'émotions hier, parce que c'était le dernier match de championnat à domicile. Et puis voilà, la fin d'une époque avec Guillaume Guirado et surtout Fulgence Ouédraogo qui vont arrêter la fin de saison.
Oui, ça a été d'ailleurs c'est presque ça peut-être le moment le plus fort hier que la qualif, parce que bon, la qualif, on sent que dans tous les cas elle aurait fini par arriver. Les adieux de ces joueurs dont tu viens de parler, grand joueur de Montpellier bien sûr, du 15 de France pour Ouédraogo, pour Guirado, c'était comment t'as vécu ces adieux?
Bah c'était bien, mais on a essayé d'abord de se concentrer sur le match, parce que on avait besoin d'une victoire, hein. Il faut savoir d'où on revient. La saison dernière, on s'était sauvé à l'avant-dernière journée en jouant en gagnant contre Bayonne, alors que là voilà, on se qualifie, on va faire des phases finales, et après on a pu, dans un stade plein, avoir vraiment une vraie osmose entre le public, les joueurs. J'ai en plus pu faire ressortir Fulgence à la 79e minute pour qu'il ait vraiment, voilà, un gros applaudissement de tout le public. Et puis après on a fait, voilà, une vraie troisième mi-temps. On a profité du moment, vu que on a deux semaines pour préparer le dernier match de championnat avec Clermont-Ferrand.
Philippe, explique-moi justement cette transformation, sauver dernier match l'année dernière et aujourd'hui premier du top 14. Est-ce que parce qu'on t'a rajouté deux autres mecs et tu mets plus les pieds sur le terrain, c'est pour ça?
Tu parles des
Sûrement, non, mais il y a Olivier Azam, Jean-Baptiste Elissade, et j'ai récupéré cette année Alexandre Ruiz et Bruce Reyana. Non, je crois que déjà. On avait bien fini la saison dernière, parce que on avait quand même gagné la conférence européenne, on avait enchaîné une dizaine de matchs d'affilée, on a fait un petit peu une saison comme Toulon est en train de le faire, c'est-à-dire on avait été en difficulté, et puis on était avant-dernier au mois de janvier, et on était arrivé à enchaîner des bons matchs sur la fin de saison. On est reparti, je pense, avec le même état d'esprit, avec une bonne osmose entre le staff et les joueurs. Le recrutement, je pense, a été assez pertinent. Et puis aussi, voilà, j'ai dans le vestiaire des joueurs comme Fulgence, comme Guillaume Guirado, qui veulent finir en haut du tableau. Et c'est vrai que cette année, pour l'instant, on a fait une saison qui est surtout bonne sur le contenu. Sur toute l'année, on a été régulier. Après, rien n'est fait. Nous, le championnat, tu peux être premier durant 21, 22, 23 journées, mais après, il reste les quarts, les demi et les finales. Donc, on a rien gagné, mais on est pour l'instant content, surtout sur le contenu et sur l'état d'esprit. Il y a vraiment un état d'esprit où les mecs ne lâchent rien pendant 80 minutes.
Philippe Saint-André, directeur du rugby du MHR, est en direct dans le RMC Sport Show avec Stephen Brun. Philippe, tu le dis, saison quand même tout en haut toute l'année, hein, pour Montpellier. Tu vas avoir du mal à te cacher pour la fin de saison, tu vas avoir du mal à faire croire que Montpellier ne sera pas l'un des grands favoris au titre.
Fais
pas semblant de raccrocher.
Quand tu vois ce championnat, quand tu vois, voilà, Toulouse, La Rochelle, Bègle, Bordeaux, mais nous, notre objectif cette année, c'était de matcher avec les meilleures équipes, d'être là, d'être à la bagarre. On est à la bagarre. Après, c'est la 23e journée. Et la dernière journée, on va à Clermont-Ferrand. Tous les matchs, ce qui va être incroyable, c'est que tous les matchs vont compter entre la descente, les places européennes et les places qualificatives. Nous, sur le dernier match, on peut finir premier, second ou troisième, c'est-à-dire, oui, ou aller directement en demi-finale si on gagne à Clermont-Ferrand, ou si on perd à Clermont-Ferrand, on jouera une quart de finale à domicile. Donc ce match va être important, mais on sait que ça va être compliqué à Clermont. Moi, j'y ai joué 9 ans, donc je connais bien la maison. Ça va être le dernier match de Morgan Parra. Et ça va être le dernier match de pas mal de joueurs de Clermont-Ferrand. Et c'est jamais facile d'aller faire un résultat au Marcel Michel.
Et puis Philippe, ça serait quand même ballot de rejouer à domicile, alors que vous avez fait l'hommage à Fulgence, tu l'as sorti. C'est-à-dire qu'il va rejouer à domicile, il faudra refaire un autre hommage pour le dernier match à domicile.
Ouais, mais ça, c'est les phases finales. Là, c'est le dernier match de championnat.
Voilà, ouais, entre c'est le championnat ça. Et d'ailleurs.
Bon, on joue sur les mots, mais bon, c'est comme vous dans le basket. Vous
jouez sur les mots. Et sachant que si ce soir.
Vous avez des compétitions, vous jouez 5 fois l'un contre les autres. Nous, c'est.
Bon, on se comprend un peu, on se comprend.
C'est des allers-retours.
Bon, Castres-Perpignan, c'est ce soir à 21h05. Et une défaite de Castres pourrait vous qualifier directement, mais bon, ce sera compliqué. Merci Philippe Saint-André, en tout cas, d'être passé ce soir sur RMC. Bonne fin de saison et à très vite, Philippe.
Merci Philippe.
Bonne soirée. Continuez à être fort comme ça, je vous écoute.
C'est gentil.
Je vous embrasse. Ciao.
Tu nous inspires. Salut Philippe. 19h57, un tour de notre direct avant l'after, le tennis. Comment ça se passe pour Alcaraz à Roland-Garros? Premier tour, Anthony Reich.
Il doit déjà sortir un peu les couteaux, Carlos Alcaraz, puisqu'il est toujours dans ce premier set face à Alondero sur le central. 3 jeux partout et égalité sur le service de l'Espagnol qui doit s'employer dans ce premier set. Et puis sur le Suzanne Lenglen, Kristina Mladenovic a débuté son premier tour face à Leila Fernandez. Elle est menée 1-0, la Française.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anthony. Le foot, le champion d'Italie, pas de mauvaise surprise, Anthony.
Et non, le Milan AC, champion d'Italie pour la première fois depuis 11 ans. La dernière fois, c'était en 2011. Il y avait déjà Ibrahimovic, mais cette fois, il y a Olivier Giroud également, le français, double buteur. Cet après-midi, le Milan AC s'impose 3-0 à Sassuolo, 19e titre de son histoire, le 3e au 21e siècle. Le premier après 11 ans, image de dingue, c'est envahissement du terrain alors que le Milan AC est à l'extérieur. On est quand même à 155 km de Milan, à Reggio d'Emilia, le club de Sassuolo. Et le Milan AC, donc, avec tous ses supporters sur la pelouse, le titre pour Théo Hernandez, pour Mike Maignan et pour Stefano Pioli, entraîneur de plus de 55 ans, qui lui aussi vit son premier titre de champion d'Italie avec le grand Milan AC.
Merci beaucoup Aurélien, très gentil à toi de ne pas avoir corrigé. Bah voilà. Mais
j'aime bien Anthony aussi, hein. c'est un très bon mec. Hein.
Mais je suis à deux doigts de me dire que ça te va mieux en fait.
Je vais appeler ma mère.
Merci Aurélien, passe une bonne soirée. 19h58, merci beaucoup Stephen.
Merci à toi Thibaut de m'avoir accueilli. C'est la première fois qu'on a partagé ce RMC Sport Show.
D'autres peut-être, je ne sais pas. C'est un plaisir en tout cas. Dans un instant, c'est l'after autour de Gilbert Bribois, Nicolas Dilla, Sébastien Piocel, Walid Acharchouré et toute la bande, toute la Dream Team. Bonne soirée sur RMC. Ciao.
RMC, l'after foot. RMC.